Chapitre 35. Ce qu'il y avait derrière M. Punks sur la main de la petite Dorrit. Ce fut à cette époque que M. Punks, remplissant la promesse qu'il avait faite à Clennam, lui révéla toutes les péripéties de son rôle de bohémien et lui raconta la bonne aventure de la petite Dorrit. Le doyen était héritier universel d'une vaste propriété longtemps ignorée, que personne n'avait réclamée et dont les revenus s'étaient accumulés. Son titre était clair comme le jour, tous les obstacles étaient renversés, la porte de la geôle allait s'ouvrir, les murs de la prison allaient crouler pour lui, le doyen n'avait plus qu'à donner quelques signatures pour se trouver tout à coup à la tête d'une très grande fortune. Dans les recherches qu'il avait fallu faire pour établir les droits de M. William Dorrit, Punks avait déployé une sagacité merveilleuse, une patience et une discrétion infatigables. Lorsque nous avons traversé Smithfield, côte à côte, dit-il à Clennam, et que je vous ai raconté mes fonctions de collecteur, je ne me doutais guère, monsieur, de ce qui allait arriver. Je ne me doutais guère, monsieur, lorsque je vous ai dit que vous n'aviez rien de commun avec les Clennam de la Cornouaille, que je vous apprendrai un jour ce que c'est que les Dorrit du Dorsetshire. Il raconta alors comment ce nom inscrit dans son calepin avait attiré son attention quand il l'avait entendu prononcer. Comment, ayant plus d'une fois découvert que deux noms dont l'orthographe était identique et qui appartenaient au même endroit n'impliquaient aucune parenté, il n'avait pas d'abord attaché beaucoup d'importance à ce fait, sauf qu'il s'était dit « Quelle transformation étonnante ce serait dans l'existence de la petite couturière si on parvenait à prouver que le doyen a des droits à un si vaste héritage. » Puis Punks se figurait que ce qu'il avait engagé à pousser plus loin l'affaire, c'est qu'il y avait dans le caractère calme et paisible de la petite couturière quelque chose d'extraordinaire qui intéressait et piquait sa curiosité. Qu'il avait procédé pas à pas avec des précautions infinies, enlevant les obstacles grain à grain, comme la taupe fait son terrier. Cette comparaison est de M. Punks. Qu'au commencement de ce travail, et pour rendre plus expressive l'image de la taupe, M. Punks, en disant cela, ferma les yeux et fit tomber ses cheveux par devant pour aider à la cécité de son rôle, des lueurs subites et des espérances imprévues avaient succédé à une soudaine obscurité et réciproquement, qu'il avait fait la connaissance de quelques détenus afin de pouvoir aller et venir dans la prison en qualité de visiteur, que les premiers renseignements utiles lui avaient été fournis, bien à leur insu, par M. William Dorrit et par son fils, avec qui il n'avait pas eu de peine à se lier, en causant avec eux de la pluie et du beau temps, mais toujours topinant dans mon souterrain, voyez-vous, remarqua M. Punks. Puis il avait obtenu d'eux, sans qu'ils se doutassent de rien, divers petits détails concernant l'histoire de la famille, lesquels, comme il avait déjà fait quelques découvertes de son côté, lui en suggérèrent d'autres. Enfin, M. Punks demeura convaincu qu'il avait découvert l'héritier universel d'une grande fortune et qu'il ne s'agissait plus que de faire les démarches nécessaires pour amener cette découverte à une maturité légale. Sur ce, après avoir exigé de son propriétaire, M. Rugg, un serment solennel de garder le secret, il l'avait admis dans sa taupinière en qualité d'associé. Il n'avait employé d'autres commis que John Chivery, dont il connaissait le dévouement chevaleresque, et jusqu'à ce jour, où des autorités infaillibles en matière de banque et de droit avaient déclaré que le succès avait couronné les efforts de M. Punks, les trois conspirateurs n'auraient pas confié leur secret à âme qui vive. « Comme ça, monsieur, poursuivit Punks, si toute l'affaire avait croulé au dernier moment, la veille même du soir où je vous ai montré nos documents dans la cour de la prison, voire le jour même, personne que nous n'aurait été cruellement déçu, personne que nous n'y aurait perdu un sou. » Clennam, qui pendant ce récit n'avait pas cessé de donner des poignées de main à Punks, s'écria, avec une surprise que la façon dont on l'avait préparé à cette grande nouvelle diminuait à peine, « Mon cher monsieur Punks, cela a dû vous coûter beaucoup d'argent. »« Mais pas mal, monsieur, » répondit Punks d'un ton de triomphe. « Une somme assez ronde, quoique nous ayons visé à l'économie depuis le commencement. Les déboursés indispensables nous ont assez embarrassés. » « Embarrassé, » répéta Clennam, « je le crois sans peine. Mais vous avez vaincu toutes les difficultés de cette affaire avec une adresse merveilleuse, » continua-t-il, donnant au remorqueur une nouvelle poignée de main. « Je vais vous dire comment j'ai fait, » poursuivit Punks, qui, dans son ravissement, redressa tous les épis de sa chevelure rebelle. « D'abord, j'ai dépensé tout ce que je possédais, ce n'était pas grand-chose. »«
J'en suis fâché, » dit Clennam, « mais peu importe, puisque vous avez réussi. Qu'avez-vous fait ensuite ?»«
Ensuite, » répliqua Punks, « j'ai emprunté à mon propriétaire. »
« À Monsieur Casby ?» dit Clennam.
« Ah, le digne brave homme !»« Quel noble vieillard, hein ?» continua Monsieur Punks avec une série de reniflements. « Un généreux gaillard, plein de confiance, débordant de philanthropie, d'une bienveillance inouïe. Je me suis engagé à lui payer un intérêt de 20%, monsieur. Nous ne faisons pas affaire à moins dans notre boutique. »
Arthur se sentit un peu confus d'avoir, dans son enthousiasme, prononcé un éloge prématuré du patriarche.
J'ai dit à ce digne archi-chrétien, reprit M. Punks, qui parut enchanté de cette épithète descriptive, que j'avais un petit projet en main, un projet qui promettait beaucoup, mais qui exigeait une certaine mise de fonds. Je lui ai proposé de me prêter une somme sur billet. C'est ce qu'il a fait, à 20%, ayant soin, en bonhomme d'affaires, d'ajouter les 20% au billet, afin qu'ils eussent l'air de faire partie du capital. Si l'entreprise avait manqué, je serais resté son factotum pendant 7 ans de plus, et il m'aurait diminué mes gages de moitié, tout en m'obligeant à faire le double de besogne. Mais M. Casby est un véritable patriarche, et ce serait un bonheur de le servir à ces conditions-là. Ce serait même un bonheur de le servir pour rien. »
Il eût été impossible à Clennam d'affirmer avec certitude que Punks ne plaisantait pas en parlant ainsi.
« Lorsque l'argent du patriarche fut épuisé, » reprit M. Punks, « et il finit par s'épuiser, bien que je l'aie ménagé comme si c'eût été mon sang, j'avais mis M. Ragg dans la confidence. Je proposais alors d'emprunter de l'argent à M. Ragg, ou à Mlle Ragg, cela revient au même. Elle a gagné quelque chose dans une spéculation devant la cour des plaides communs. Il me l'a prêté à 10%, et il a encore trouvé que c'était un taux bien élevé. Mais, voyez-vous, M. Ragg a des cheveux rouges, monsieur, et il se les fait couper ras. Et puis la forme de son chapeau n'est pas moins élevée que celle de tout le monde. Et les bords n'en sont pas plus larges que ceux de tout le monde, aussi ce n'est pas un patriarche. Et il ne respire pas plus de bienveillance que la première borne venue.
Mais vous, dit Clennam, votre récompense, pour toute la peine que vous avez eue, doit être assez belle.
J'ai bon espoir que je n'aurai pas perdu mes peines, monsieur. Je n'ai pas fait de marché d'avance. C'est un prêté pour un rendu, monsieur Clennam. Vous vous rappelez, nous voilà quittes. Les déboursés payés, le temps employé pris en considération, et la note de M. Ragg soldée, 1000 livres sterling serait une fortune pour moi. Je laisse cela entre vos mains. Je vous autorise maintenant à annoncer cette nouvelle à la famille, comme vous le jugerez à propos. Mademoiselle Amy Dorrit doit se trouver chez Madame Finching ce matin. Plus tôt ils le sauront, mieux cela vaudra. On ne saurait le leur apprendre trop tôt. »
Cette conversation avait eu lieu dans la chambre couchée de Clennam, qui n'était pas encore levée, car M. Punks avait réveillé toute la maison et y avait pénétré de grand matin. Sans jamais s'asseoir, sans jamais se tenir en place 2 secondes de suite, il avait raconté tous ces détails, appuyés par une foule de documents, au chevet d'Arthur. Il dit alors qu'il allait relancer M. Ragg, et dans son agitation, le remorqueur paraissait avoir besoin de faire encore quelques petites courses après. Enfin, rassemblant ses papiers, il descendit l'escalier et s'éloigna à grande vitesse, après avoir échangé avec Clennam une dernière poignée de main. Arthur, cela va sans dire, résolut de se rendre à l'instant même chez M. Casby. Il mit tant d'empressement à sortir qu'il se trouva au coin de la rue patriarcale, près 1 heure avant l'arrivée de la petite Dorrit, mais il ne fut pas fâché d'avoir le temps de faire un tour de promenade paisible pour se calmer. Lorsqu'il revint dans la rue et souleva le brillant marteau de cuivre, la bonne lui dit que la petite couturière y était. On le conduisit en haut, au salon de Flora. La jeune fille ne s'y trouvait pas, il n'y avait que Flora, qui témoigna la plus vive surprise de le voir.
« Bonté divine, Arthur, Doyce et Clennam, veux-je dire, » s'écria cette dame.
« Qui se serait jamais attendu à une pareille visite? Excusez mon peignoir, car vraiment je ne songeais guère à vous voir.
et un peignoir de cotonnade fanée encore, ce qui est bien pis. Mais ma petite amie est en train de me faire... Au fait, pourquoi éprouverais-je de l'embarras à parler de cela devant vous? Vous savez bien ce que c'est. Une jupe. Et comme je devais l'essayer ce matin après déjeuner, je suis resté en robe de matin. J'y ferais moins attention encore si elle était mieux empesée.
« C'est à moi à m'excuser, répondit Arthur, d'une visite si matinale et si brusque. Mais vous me pardonnerez lorsque vous connaîtrez le motif qui m'amène. »
Du temps de séjour à jamais envolé, Arthur, répliqua Madame Finching, pardonnez-moi, Doyce et Clennam seraient beaucoup plus convenables, quoique plus froids, mais voilà que je perds le fil de mon sujet, car vous m'avez fait oublier ce que je voulais dire. Elle lança une tendre œillade à Clennam et reprit, dans ces jours à jamais envolé, allais-je dire, il eût été bien étrange en vérité qu'Arthur Clennam, mais Doyce et Clennam, c'est bien différent, se crut obligé de faire des excuses à quelque heure de la journée qu'il se présenta. Mais ces jours sont passés, et le passé ne saurait revenir, excepté, comme le disait ce pauvre M. Finching, lorsqu'il était de bonne humeur, les concombres qu'il ne pouvait digérer. Flora, qui était en train de faire le thé à l'arrivée d'Arthur, termina à la hâte ses préparatifs.
Papa, reprit-elle tout bas, d'un ton plein de mystère, tandis qu'elle abaissait le couvercle de la théière dans laquelle elle venait de verser de l'eau bouillante, est occupé à manger son œuf frais, dont il brise la coque, absolument comme un pivert, dans la salle à manger d'en bas, tout en lisant le bulletin de la bourse. Et il ne saura pas que vous êtes ici. Quant à notre jeune amie, vous savez qu'on peut se fier à elle, quand elle redescendra, après avoir découpé son corsage, sur la grande table d'en haut.
Alors Arthur lui dit, aussi brièvement que possible, que c'était leur petite amie qu'il venait voir, puis il confia à Flora ce qu'il avait à dire à leur petite amie. À cette nouvelle renversante, Flora se joignit les mains et se mit à trembler, versant des larmes de sympathie et de joie, comme une bonne fille qu'elle était.
« Au nom du ciel, laissez-moi m'esquiver d'abord, » dit-elle, se bouchant les oreilles et se dirigeant vers la porte, sans quoi je vais me trouver mal ou crier à mettre tout le monde au sang-coup. Et la chère petite qui ce matin encore a l'air si gentille, si propre, si bon et pourtant si pauvre, et la voilà qui hérite d'une grande fortune. Car c'est bien vrai, n'est-ce pas? Et elle le mérite bien.
Et puis j'annonçai la nouvelle à la tante de M. Finching, Arthur, et non pas Doyce et Clennam, pour cette fois seulement. Cependant, si vous y voyez le moindre inconvénient, je m'en garderai bien. Arthur accorda cette permission par un signe de tête, attendu que Flora continuait à se boucher les oreilles. Flora le remercia de même et s'empressa de quitter la chambre. On entendait déjà dans l'escalier le pas de la petite Dorrit et l'instant d'après, elle ouvrit la porte. Arthur eut beau chercher à composer sa physionomie, il ne put donner à ses traits une expression assez ordinaire pour que la jeune fille ne laissât pas tomber son ouvrage en s'écriant « Monsieur Clennam, qu'est-ce qu'il y a donc ?»«
Rien, rien. »
C'est-à-dire, rien de mal. Je suis venu vous apporter une nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle?
On ne peut plus heureuse. Il se tenait près de la croisée, et les yeux rayonnants de la jeune fille étaient fixés sur lui. Il passa un bras autour de sa taille, voyant qu'elle était sur le point de perdre connaissance. Elle posa la main sur ce bras, en partie pour s'y appuyer, et en partie pour maintenir leur position relative, afin qu'aucun changement d'attitude de l'un ou de l'autre ne vînt déranger le regard profond qu'elle fixait sur son compagnon. Ses lèvres remuèrent comme pour répéter « On ne peut plus heureuse ». Arthur redit tout haut ces paroles. « Chère petite Dorrit, votre père ?» Son visage glacé se ranima un peu à ce mot et fut traversé par quelques faibles lueurs d'expression, mais d'expression douloureuse. Sa respiration était faible et rapide. Son cœur battait très vite. Clennam aurait resserré son étreinte, mais il vit que le regard de sa compagne le suppliait de la laisser comme elle était. « Votre père peut être libre avant la fin de cette semaine. Il n'en sait rien encore. Il nous faudra partir tantôt d'ici pour le lui apprendre. Votre père sera libre dans quelques jours, dans quelques heures. » « Rappelez-vous qu'il faut que nous partions d'ici pour le lui apprendre. » Ces dernières paroles rappelèrent la petite Dorrit à elle. Ses yeux se fermèrent, mais se rouvrirent aussitôt.
« Ce n'est pas tout, ma chère petite Dorrit. Faut-il vous dire le reste ?»
Les lèvres de la jeune fille formèrent un « oui » qu'on entendit à peine.
« Votre père ne sera pas pauvre en devenant libre. Il ne manquera de rien.
Faut-il vous en dire davantage ?
Rappelez-vous qu'il ne sait rien encore, qu'il nous faudra partir d'ici pour le lui apprendre. »
Elle sembla demander un peu de temps. Il continua à la retenir dans ses bras, et, après un moment de silence, il se pencha pour écouter ce qu'elle murmurait.
« M'avez-vous prié de continuer ?»«
Oui. »
« Votre père sera riche. Il est riche, déjà. Il va hériter d'une grosse somme. Vous êtes tous très riches. Je rends grâce au ciel qui récompense ainsi la plus courageuse, la meilleure des filles. »
Tandis qu'il l'embrassait, elle appuya la tête sur l'épaule et leva les bras vers le col d'Arthur en murmurant
« Père, père, père !» Puis elle perdit connaissance.
Sur ce, Flora revint leur prodiguer des soins et, voltigeant autour du canapé, entremêlant les bons offices et les phrases incohérentes dans une confusion si vertigineuse qu'il était impossible de deviner si elle pressait la prison de la maréchaussée d'avaler une cuillerée de dividendes arriérés qui devait lui faire beaucoup de bien, ou si elle félicitait le père de la petite Dorrit d'avoir hérité de 100 000 flacons, ou si elle expliquait à la petite Dorrit qu'elle venait de verser 75 000 gouttes d'eau de lavande sur 50 000 livres de sucre, et qu'elle suppliait la jeune malade de prendre ce doux stimulant. Ou si elle baignait les tempes de Doyce et Clenham avec du vinaigre et donnait un peu plus d'air à feu M. Finching. Un autre courant de confusion vint bientôt offrir son tribut à la rivière principale. À travers la porte entrouverte d'une chambre à coucher voisine, où la tante de M. Finching, à en juger d'après l'intonation de sa voix, attendait encore son déjeuner dans une position horizontale du fond de sa retraite, cette dame inexorable adressait à ses voisins divers sarcasmes laconiques dès qu'un intervalle de silence lui permettait de se faire entendre, tels que « Je parie qu'il n'y est pour rien. Il a beau se faire honneur de cette découverte, elle n'est pas de lui. Demandez-lui un peu s'il leur aurait jamais donné un sou de son propre argent. » Et autre phrase destinée à enlever à Clenham l'honneur de la découverte et à assouvir la haine invétérée que la tante de M. Finching avait vouée à cet inoffensif gentleman. Mais le désir qu'éprouvait la petite Dorrit de rejoindre son père, afin de lui communiquer la joyeuse nouvelle, et de ne pas le laisser un instant de plus dans sa prison, ignorant le bonheur qui lui arrivait, la ranima plus vite que n'auraient pu le faire tous les soins ou tous les médecins du monde.
« Menez-moi auprès de mon cher père, je vous en prie, venez lui apprendre cette bonne nouvelle », furent les premières paroles qu'elle prononça. Son père, elle ne parlait que de lui, elle ne songeait qu'à lui.
Lorsqu'elle s'agenouilla et leva les mains pour rendre grâce au ciel, c'est par amour pour son père qu'elle le remerciait. Le bon cœur de Flora ne put résister à ce spectacle, et elle versa au milieu des tasses et des soucoupes un torrent de larmes et de paroles.
« Je vous assure, dit-elle en sanglotant, que je n'ai jamais eu le cœur aussi déchiré depuis le jour où mon papa et votre maman, pas Doyce et Clenham, pour cette fois seulement, mais donnez donc à la chère petite une tasse de thé, et faites-lui en prendre un peu. Arthur, je vous prie, pas même durant la dernière maladie de M. Finching, mais celle-là était d'un autre genre, car la goutte n'est pas une indisposition d'enfant, bien qu'elle soit quelque chose de très pénible pour tout le monde. Et M. Finching souffrait le martyr avec sa jambe sur un pliant. Et le commerce du vin, par lui-même, est assez inflammatoire, attendu que ceux qui en vendent en boivent tous plus ou moins comme de raison. Ne dirait-on pas un rêve ? Rien du tout ce matin, et maintenant des mines d'or. Mais il faut bien prendre quelque chose, ma chérie, autrement vous n'aurez jamais la force de lui raconter tout. Que par petites cuillerées, ne vaudrait-il pas beaucoup mieux essayer de l'ordonnance de mon médecin, car bien que l'odeur de l'alcool ne soit rien moins qu'agréable, je me force à prendre cette médecine et je m'en trouve bien. Vous aimez mieux n'y pas goûter ? Moi aussi j'aimerais mieux n'y pas goûter, mais néanmoins c'est un devoir que je remplis envers moi-même.
Tout le monde vous félicitera, les uns sincèrement, les autres avec envie, beaucoup du fond du cœur, mais personne plus cordialement que moi, quoique je sache bien que j'ai le défaut de bavarder comme une pie, ainsi que vous le dira Arthur, non pas Doris et Clennam pour cette fois seulement. Adieu donc, ma chérie, Dieu vous bénisse, et puissiez-vous être heureuse, et pardonnez-moi cette liberté. Je fais ici le serment que nulle autre couturière ne terminera cette robe, qui restera telle qu'elle en souvenir de vous, et que j'appellerai la petite Dorit, bien que ce soit là un nom étrange que je n'ai jamais pu comprendre et qui maintenant restera toujours un mystère pour moi. » Ainsi parla la veuve de M. Finching en faisant ses adieux à sa protégée. La petite Dorit la remercia et l'embrassa à plusieurs reprises, puis elle sortit de la maison avec Clennam pour monter en voiture et se rendre à la prison de la Maréchaussée. Ce fut un voyage presque fantastique pour la jeune couturière que ce voyage à travers ces rues misérables, au-dessus desquelles elle se sentait enlevée comme dans une atmosphère de richesse et de grandeur. Lorsqu'Arthur lui eut dit que bientôt elle voyagerait dans sa propre voiture à travers des scènes bien différentes, oubliant toutes ses épreuves domestiques, la petite Dorit parut tout effrayée. Mais lorsque Clennam, au lieu de lui parler d'elle-même, lui parla de son père, et lui dit que le doyen aurait des équipages et que ce serait un grand personnage, des larmes d'une joie et d'un orgueil innocent inondèrent le visage d'Aimé. Arthur, voyant que tout le bonheur qu'elle pouvait rêver, c'était pour enrichir son père, ne lui parla plus que du vieillard, et c'est ainsi qu'ils s'enfuirent à travers les misérables rues qui avoisinaient la prison, porter la grande nouvelle au père des détenus. Lorsque M. Chivery, qui était de garde, la laissa entrer dans la loge, il lut dans l'expression de leurs traits quelque chose qui lui causa une vive surprise. Il resta à les regarder, tandis qu'il se hâtait de pénétrer dans la cour, comme s'il se fût aperçu que les deux visiteurs avaient chacun un revenant à leur trousse. Deux ou trois détenus se retournèrent pour les regarder passer et ne tardèrent pas à rejoindre M. Chivery pour former sur les marches du greffe un petit groupe qui s'entretint à voix basse en faisant bientôt circuler le bruit que le doyen allait enfin reconquérir sa liberté. En moins de 5 minutes, cette nouvelle avait pénétré dans la chambre la plus reculée de la prison. La petite Dorit ouvrit la porte sans frapper et entra avec Arthur. M. Dorit, vêtu de sa vieille robe de chambre grise et de sa vieille calotte de velours noir, lisait à la croisée son journal. Il avait son binocle à la main et venait de tourner la tête du côté de la porte, surpris sans doute d'entendre dans l'escalier le pas de sa fille qui ne devait rentrer que dans la soirée, surpris aussi de la voir revenir en compagnie d'Arthur Clennam. Comme ils entraient, le vieillard fut frappé de l'air étrange qui avait déjà attiré l'attention de M. Chivery et de quelques-uns des détenus. Sans se lever ni parler, il posa son journal et ses lunettes sur la table, puis regarda sa fille, la bouche entrouverte. On voyait trembler ses lèvres. Lorsqu'Arthur lui tendit la main, il la toucha, mais d'un air moins cérémonieux que d'habitude. Puis il se tourna vers Amy, qui venait de s'asseoir à côté de lui, les deux mains sur son épaule, et il la regarda avec attention. « Père, on m'a rendue si heureuse ce matin. »«
On t'a rendue heureuse, ma chère ?»«
Oui, père. Monsieur Clennam m'a apporté une si bonne, une si surprenante nouvelle en ce qui nous concerne. » S'il ne m'avait pas, avec sa bonté et sa douceur habituelle, préparé à l'entendre, cher père, je crois que je me serais trouvé mal. Elle était très agitée. Les larmes coulaient le long de ses joues. Le vieillard porta tout à coup la main à son cœur et regarda Clennam.
« Calmez-vous, monsieur, dit ce dernier, et donnez-vous le temps de réfléchir. Songez aux plus brillants et aux plus heureux accidents de cette vie. Nous avons tous entendu parler de joyeuses surprises. Il peut en arriver encore, monsieur. Elles sont rares, mais il en arrive encore.
Monsieur Clennam, que voulez-vous dire? Il en arrive encore. Il pourrait y en avoir pour... Il se frappa la poitrine au lieu d'ajouter « moi ?»«
Oui, répondit Clennam.
Quelle surprise ! Continua le vieillard, la main gauche sur le cœur, et s'arrêtant au milieu de sa phrase pour mettre ses lunettes exactement d'aplomb sur la table.
Quelle surprise! Le sort peut-il me réserver? À moi?
Permettez-moi de répondre à votre question en vous en adressant une autre. Dites-moi, monsieur Dorrit, quelle est la surprise la plus inattendue et la plus agréable que vous puissiez espérer? Ne craignez pas de former un vœu. Le doyen regarda Clennam en face, et, en le regardant, il avait l'air d'un vieillard bien cassé. Le soleil brillait sur le mur au-delà de la croisée et sur les pointes de fer qui en garnissaient le sommet. Il leva lentement la main qui venait de comprimer les battements de son cœur et désigna le mur.
« Il n'existe plus, » dit Clennam. « Il est tombé. »
Le vieillard conserva quelque temps la même attitude, les yeux toujours fixés sur le visage d'Arthur. « Et à la place de ces murs, » continua Clennam d'une voix lente et distincte, « voyez renaître les moyens de jouir sans restriction de la liberté dont vous avez été si longtemps privé. Monsieur Dorrit, il n'existe plus le moindre doute que d'ici à quelques jours, vous soyez libre et riche. Je vous félicite de tout mon cœur de ce changement de fortune et de l'heureux avenir dans lequel vous pourrez bientôt transporter le trésor que vous avez possédé durant votre séjour ici. La meilleure de toutes les richesses que le ciel ait pu vous accorder, ce trésor que vous avez là en ce moment, tout près de vous. » À ces mots, il serra la main du vieillard, et la petite Dorrit, le visage appuyé contre celui de son père, le serrant dans ses bras à l'heure de la prospérité, comme durant de longues années d'adversité, elle l'avait entouré de son amour dévoué et sincère, laissa éclater sa reconnaissance, son espoir, sa joie, son extase désintéressée. « Je le verrai comme je ne l'avais pas encore vu. Je le verrai sans ces nuages qui s'élèvent devant lui. Je le verrai tel que ma pauvre mère l'a vu il y a longtemps. Oh, mon cher père, Dieu soit loué, Dieu soit loué !» Il s'abandonna aux baisers et aux caresses de sa fille, mais il ne les lui rendit pas, se contentant de passer un bras autour de sa taille. Il ne prononça pas un mot. Son regard allait de l'un à l'autre, et il commença à trembler comme s'il grelottait. Arthur dit à la petite Dorrit qu'il allait au café chercher une bouteille de vin et s'y rendit en toute hâte. Tandis que le garçon descendait à la cave, un rassemblement de détenus très animés lui demanda ce qu'il y avait. Il leur annonça en peu de mots que M. Dorrit avait hérité d'une grande fortune. Ayant rapporté le vin lui-même, il vit que la petite Dorrit avait fait asseoir le doyen dans son fauteuil et lui avait ôté sa cravate et dégagé le col. Ils remplirent un grand verre de vin et l'approchèrent des lèvres du vieillard. Lorsqu'il eut bu une ou deux gorgées, il prit le verre dans sa main et le vida. Puis il se rejeta au fond de son fauteuil et se mit à pleurer, le visage caché dans son mouchoir. Au bout de quelque temps, Clennam pensa qu'il ferait bien de distraire le doyen du premier saisissement de cette surprise en lui racontant les détails de l'affaire. Il les lui expliqua donc le mieux qu'il put, sans se presser et d'un ton calme, s'appuyant sur la nature des services rendus par Pinks. « Il sera noblement récompensé, monsieur !» s'écria le père des détenus, se levant brusquement et se promenant d'un pas agité. « Soyez convaincu, monsieur Clennam, que tous ceux qui se sont occupés de cette affaire seront noblement récompensés. Je ne veux laisser à personne, monsieur, le droit de dire que j'ai méconnu ce que je lui dois. J'aurai un plaisir tout particulier à rembourser les avances que vous avez bien voulu me faire, monsieur. Je désire savoir, à votre convenance, ce que vous doit mon fils. » Il n'avait aucun motif pour se promener dans la chambre, et cependant, il ne pouvait tenir en place. « Personne, continua-t-il, ne sera oublié. Je ne laisserai pas ici un sou de dette. Tous ceux qui se sont bien conduits envers moi et envers ma famille, seront récompensés. Chivery sera récompensé. Le jeune John sera récompensé. J'ai le désir et l'intention, monsieur Clennam, d'agir avec la plus grande munificence. « Voulez-vous bien me permettre, monsieur Dorrit, dit Arthur, de pourvoir aux éventualités les plus pressées? J'ai cru devoir apporter une certaine somme à cet effet. « Merci, monsieur, merci. J'accepte bien volontiers en ce moment un service que ma conscience m'aurait empêché de vous demander il y a une heure.
Je vous suis obligé de ce prêt provisoire, mais opportun, bien opportun. » Sa main se referma sur l'argent qu'il continua à tenir durant sa promenade.
« Vous serez assez bon, monsieur, pour ajouter cette somme aux avances précédentes dont je parlais tout à l'heure, en ayant soin, s'il vous plaît, de ne pas oublier non plus les avances faites à mon fils. Une simple déclaration verbale du montant me suffira, monsieur. »
À ce moment, son regard tomba sur sa fille, et il s'arrêta pour l'embrasser et lui caresser les cheveux.
« Il faudra vous procurer une modiste, ma chérie, afin d'opérer un changement rapide et complet dans votre toilette, qui est extrêmement simple. Il faudra aussi s'occuper de Maggie, dont la mise en ce moment est tout au plus respectable. Et votre sœur, Aimé, et votre frère. Et mon frère à moi, votre oncle. Pauvre Aimé, j'espère que cette nouvelle le tirera de sa torpeur. Il faut les envoyer chercher. Il sera nécessaire d'user de ménagement en leur apprenant notre nouvelle position. Mais il n'y a pas une minute à perdre. Nous leur devons, et nous nous devons à nous-mêmes, à partir de ce moment, de ne pas souffrir qu'ils fassent quoi que ce soit. C'était la première fois qu'il laissait entrevoir qu'il savait que sa famille était obligée de travailler pour vivre. Il continuait à se promener dans la chambre, serrant toujours sa bourse dans sa main nerveuse, lorsque de grands « hurrahs » retentirent dans la cour au-dessous de la croisée. La nouvelle s'est déjà répandue, dit Clenham, regardant par la fenêtre. « Voulez-vous vous montrer à eux, monsieur Dorrit ? Leur joie me paraît sincère, et il est évident qu'ils désirent vous voir. »
J'avoue, ma chère Amy, que j'aurais désiré, répliqua le doyen, se promenant avec une agitation plus fiévreuse qu'auparavant, qu'ils m'eussent laissé le temps de faire un peu de toilette et d'acheter une montre et une chaîne. Mais puisqu'il me faut me présenter tel que je suis, eh bien, je ne reculerai pas. Boutonnez le col de ma chemise, ma chère. Monsieur Clenham, seriez-vous assez bon pour me passer une cravate bleue que vous trouverez dans ce tiroir près de vous. Boutonne mon ami sur la poitrine, ma chérie. Il paraît plus large quand il est boutonné. D'une main tremblante, il arrangea ses cheveux gris. Puis, prenant Clenham et sa fille pour soutien, il apparut à la fenêtre, flanqué de ses deux aides de camp. Les détenus firent entendre une acclamation très cordiale, et il leur envoya force baisers avec un geste protecteur et plein d'urbanité. Lorsqu'il se retira de la croisée, il s'écria « Pauvre diable !» d'un ton de compassion pour leurs conditions misérables. La petite Dorrit était très désireuse qu'il se reposât un peu, afin de calmer son agitation. Lorsqu'Arthur dit à la jeune fille qu'il allait prévenir Panks, qu'il pouvait se présenter dès que cela lui conviendrait, afin de procéder aux dernières formalités, elle le pria à voix basse de ne pas la quitter, que son père ne fût plus calme et n'eût consenti à se reposer. La petite Dorrit n'eut pas besoin de répéter cette prière. Elle arrangea le lit du vieillard et l'engagea à prendre un peu de repos. Pendant une demi-heure, au moins, il ne voulut rien faire que poursuivre sa promenade, se livrant à un calcul de probabilité pour savoir si le directeur de la prison permettrait ou non aux détenus de se mettre aux croisées de sa résidence officielle. Elle donnait sur la rue, afin de voir partir en équipage leur doyen et sa famille. Ce serait là, dit-il, un spectacle qu'il n'oublierait pas de longtemps. Mais peu à peu, il commença à se lasser, et il s'étendit enfin sur son lit. La fidèle petite Dorrit s'assit au chevet de son père, l'éventant avec un journal et lui rafraîchissant le front. Il paraissait déjà assoupi, toujours son argent à la main, lorsqu'il se redressa tout à coup. « Monsieur Clenham, je vous demande pardon. Ne m'avez-vous pas donné à entendre, mon cher monsieur, que je pourrais traverser à l'instant même le greffe pour aller me promener ?»«
Je ne crois pas, monsieur Dorrit, répondit Clenham à contre-cœur. Il reste certaines formalités à remplir. Et quoique votre séjour ici ne soit plus qu'une simple formalité, je crains qu'il ne faille s'y soumettre quelque temps encore. » En entendant cette réponse, le vieillard se remit à pleurer.
« Mais ce n'est plus qu'une affaire de quelques heures, » remarqua Clenham d'un ton de gaieté consolante.
« Quelques heures, monsieur, » répliqua le vieillard,
avec une soudaine colère. « Vous en parlez bien à votre aise, monsieur. Savez-vous combien dure une heure pour un homme qui étouffe faute d'air ?» Ce fut sa dernière démonstration pour le moment. Car après avoir versé encore quelques larmes et s'être plaint de ne pouvoir respirer dans la prison, il s'endormit peu à peu. Clenham trouva amplement de quoi occuper sa pensée dans cette paisible chambre où il observait le vieillard endormi et la jeune fille veillant à son chevet. La petite Dorrit avait aussi réfléchi de son côté. Après avoir écarté les cheveux gris de son père et posé ses lèvres sur son front, elle se tourna vers Arthur. Celui-ci s'étant rapproché, elle poursuivit à voix basse le sujet de ses réflexions. « Monsieur Clenham, est-ce qu'il paiera toutes ses dettes avant de sortir d'ici ?»« Oui, assurément, toutes. Même celles pour lesquelles il est resté emprisonné toute sa vie et plus encore ?»« Assurément. » Il y avait dans le regard de la petite Dorrit quelque chose qui annonçait un peu de doute et de défiance. On voyait qu'elle n'était qu'à demi satisfaite. Arthur, étonné, lui demanda « Vous n'êtes pas fâché qu'il paye ses dettes ?»« Et vous ?»«
Moi, mais j'en suis enchanté. »«
Alors je sais que je ne dois pas en être fâché. »«
Pourquoi le seriez-vous ? » ?»«
Il me semble bien dur qu'après avoir perdu tant d'années, qu'après avoir tant souffert, il soit obligé à la fin de payer aussi ses dettes. Il me semble dur de payer d'abord de sa personne, puis de payer encore de sa bourse.
Ma chère enfant,
oui, je sais que j'ai tort, interrompit timidement la petite Dorrit. Ne me jugez pas trop sévèrement pour cela. C'est une idée qui a grandi avec moi dans la prison. La prison, qui gâte tant de choses, n'avait pas réussi à démoraliser plus que cela l'esprit de la petite Dorrit. Cette erreur, engendrée par la compassion que lui inspirait le pauvre détenu, son père, était la première tâche que l'atmosphère de la prison eût faite à l'âme pure et innocente de la petite Dorrit. Ce fut la première tâche que Clenham découvrit en elle, et ce fut aussi la dernière. Il le pensa, mais il s'abstint de dire une parole de plus à ce sujet. À ses yeux, cette petite tâche faisait seulement ressortir la pureté et la bonté de la jeune fille, et les rendait plus éclatantes encore. Épuisé par ses propres émotions, cédant aussi au pouvoir assoupissant du silence qui régnait dans la chambre, elle cessa peu à peu d'éventer le vieillard et laissa retomber sa tête sur l'oreiller à côté de celle de son père. Clenham se leva doucement, ouvrit la porte et la referma sans bruit, et quitta la prison, emportant la calme influence de cette scène au milieu des rues turbulentes. Chapitre 36. La prison de la Maréchaussée devient orpheline. Voici enfin le jour où M. Dorrit et sa famille doivent quitter la prison et dire un éternel adieu à ces cours dont leurs pieds ont usé les pavés. Quoique l'intervalle eût été fort court, il avait semblé bien long à l'ex-doyen, qui s'était plaint vivement à M. Ragg de ce délai. Il s'était montré fort hautain envers M. Ragg, et avait même menacé d'employer un autre homme d'affaires. Il avait prié M. Ragg d'oublier l'endroit où il le trouvait et de ne pas se permettre de le traiter en prisonnier, mais de faire son devoir, monsieur, et de le faire avec promptitude. Il avait dit à M. Ragg qu'il connaissait de longue date les avocats et les agents d'affaires et qu'il n'était pas homme à s'en laisser imposer. Celui-ci, ayant humblement prié M. Dorrit de remarquer qu'il allait aussi vite que possible, Mademoiselle Fanny l'avait relevé d'importance, demandant s'il pouvait faire moins lorsqu'on lui avait répété 20 fois qu'on ne regardait pas à la dépense et déclarant qu'elle le soupçonnait fort d'oublier à qui il parlait. M. Dorrit ne se montra pas moins sévère envers le directeur de la prison, qui était là depuis bien des années déjà, sans que le vieux détenu eût jamais eu avec lui le moindre différend. Ce fonctionnaire, en présentant à M. Dorrit ses félicitations personnelles, lui avait offert, par la même occasion, la libre disposition de 2 chambres de son logis particulier jusqu'au jour où il quitterait la prison. M. Dorrit avait remercié en disant qu'il y réfléchirait. Mais le directeur n'avait pas eu plus tôt le dos tourné qu'il s'était assis et lui avait adressé un billet sarcastique où il remarquait que c'était la première fois qu'il avait eu l'honneur de recevoir les félicitations du directeur. Rien de plus vrai au fond. Mais il est vrai aussi que jusqu'alors, personne n'avait eu aucun motif pour le féliciter,
et qu'en son propre nom et au nom de sa famille, il croyait devoir répudier l'offre du directeur tout en le priant d'agréer les remerciements que méritait une politesse aussi désintéressée, aussi pure de toute arrière-pensée mondaine. Frédéric semblait s'intéresser si peu à ce changement de fortune qu'on aurait pu croire qu'il ne le comprenait pas. Cela n'empêcha pas M. Dorit de faire mesurer son frère par les lingers, tailleurs, chapeliers, bottiers et autres fournisseurs qu'il avait convoqués pour son propre compte et de commander qu'on livrât aux flammes l'ancienne défroque du musicien, dût-on la lui enlever de force. Quant à Mademoiselle Fanny et à M. Tip, il n'était besoin d'aucune violence pour les engager à devenir des personnages fashionables et élégants. Tous les trois habitaient provisoirement le meilleur hôtel du voisinage. Et le meilleur, disait Mademoiselle Fanny, ne valait pas grand-chose. En outre, M. Tip loua un cheval, un groom et un cabriolet, équipage d'assez bon goût, qui stationnait pendant 2 ou 3 heures consécutives dans la grande rue, aux abords de la prison. On y voyait presque aussi fréquemment une petite remise à 2 chevaux, dont Fanny ne descendait jamais et où elle ne remontait jamais sans agacer les filles du directeur de la prison par le spectacle de ses chapeaux d'un prix inabordable pour elle. On expédia une masse d'affaires durant cette courte période. Entre autres choses, messieurs Peddle et Poole, avoués de Monument Yard, furent chargés par leur client Edward Dorit, Esquire, d'adresser à M. Arthur Clennam une lettre renfermant un mandat de 24 livres sterling, 9 shillings et 8 pence, formant le capital et l'intérêt à 5% de la somme que leur client croyait devoir à M. Clennam. En faisant cette communication et cette remise, messieurs Peddle et Poole furent aussi chargés par leur client de rappeler à M. Clennam qu'on n'avait pas prié M. Clennam d'avancer la somme qui lui était remboursée et qu'on aurait refusé la dite avance si elle avait été offerte directement. Après quoi, messieurs Peddle et Poole demandèrent un reçu sur papier timbré en bonne et due forme et se dirent les très humbles serviteurs de M. Clennam. M. Dorit lui-même eut aussi beaucoup d'affaires à régler entre les murs même de cette prison qui allait devenir orpheline par suite d'un grand nombre de pétitions que lui adressèrent ses enfants pour solliciter diverses petites sommes. Il répondait à ces demandes avec une libéralité extrême, mais avec beaucoup de cérémonie, commençant par adresser au pétitionnaire une lettre d'audience pour lui indiquer l'heure à laquelle il pouvait se présenter, le recevant au milieu d'une masse de documents et accompagnant son cadeau, car il ne manquait jamais de dire « c'est un cadeau et non un prêt », d'une foule de bons conseils. Il terminait presque toujours en disant qu'il espérait que les détenus n'oublieraient pas leur ex-doyen, qui leur avait prouvé qu'on pouvait se respecter et se faire respecter même dans une prison. Les détenus ne montrèrent pas du tout de basse envie. Outre qu'ils avaient un respect personnel et traditionnel pour leur doyen, l'événement en lui-même faisait honneur à la communauté en attirant sur eux l'attention des journaux. Peut-être beaucoup de ces pauvres diables, la plupart sans s'en douter, se consolaient-ils par la conviction intime que ce bonheur aurait tout aussi bien pu arriver à chacun d'eux et que rien ne prouvait qu'il ne leur arriverait pas un jour ou l'autre. Enfin, ils prirent très bien la chose. Quelques-uns s'attristèrent en songeant qu'ils allaient rester là et y rester avec leur misère. Mais les plus attristés même ne se montrèrent pas jaloux du bonheur de la famille Dorit. Ce bonheur eût peut-être excité plus d'envie dans une sphère plus fashionable. Il est même assez probable que des gens de fortune médiocre eussent fait preuve de moins de magnanimité que ces détenus vivant au jour le jour et n'ayant d'autres banquiers que le prêteur sur gage du coin. Une assemblée générale des détenus vota au doyen une adresse de félicitations qu'on lui présenta sous verre, ornée d'un beau cadre. Malgré cela, ce document ne figura pas dans la galerie Dorit ni dans les archives de la famille. M. Dorit, néanmoins, rédigea une réponse des plus aimables où il déclarait avec une solennité toute royale qu'il était bien convaincu de la sincérité de leur attachement, les exhortant en termes généraux à suivre son exemple. Recommandation dont il ne demandait pas mieux que de profiter, surtout en ce qui concernait l'héritage d'une grande fortune. Le doyen saisit cette occasion pour inviter la communauté à un festin d'adieu qui devait être servi dans la cour, en leur signifiant qu'il voulait avoir l'honneur de boire le coup de l'étrier
à la santé et à la prospérité de tous ceux qu'il laissait derrière lui. Il ne prit point part en personne à ce repas public, parce que le banquet avait lieu à 2 heures de l'après-midi, tandis qu'il se faisait apporter maintenant son dîner de l'hôtel à 6 heures. Mais son fils eut la bonté de présider à la table principale, où il se montra fort affable. Le doyen se contenta de circuler parmi les convives, daignant reconnaître ça et là certains individus, s'assurant que les mets étaient bien de la qualité requise et qu'on n'avait rien oublié du menu. En somme, il avait l'air d'un puissant baron du bon vieux temps, dans un accès de belle humeur. Vers la fin du repas, il but en l'honneur de ses hôtes un verre de madère sec, leur disant qu'il espérait que ses invités avaient trouvé le repas à leur goût et, qui plus est, qu'ils passeraient agréablement par souvenir le reste de la soirée. Il ajouta même qu'il leur souhaitait bonheur et bienvenue. Alors on but à sa santé au milieu des acclamations. Et le vieillard, après tout, au lieu de continuer à ressembler à un haut et puissant baron, eut l'air d'un simple serf qui sentait battre un cœur dans sa poitrine, car il se laissa émouvoir au point de verser des larmes devant tout le monde. Après ce grand succès, qu'il regardait comme une défaite, il proposa la santé de M. Chivery et de ses dignes collègues, à chacun desquels il avait, au préalable, présenté un billet de 10 livres sterling, et dont aucun ne manquait à l'appel. M. Chivery, chargé de répondre à ce toast, s'exprima en ces termes. « Quand vous vous engagez à tenir quelqu'un sous clé, ne lui ouvrez pas la porte, mais n'oubliez jamais que votre prisonnier, comme le nègre de la romance, tout enchaîné qu'il est, n'en est pas moins votre semblable et votre frère. » La liste de toasts étant épuisée, M. Dorrit poussa la condescendance jusqu'à faire, pour la forme, une partie de quille avec le détenu le plus ancien après lui. Puis il laissa les orphelins se divertir à leur guise. Mais tout cela n'était encore que l'aurore du départ. Voici venir ce grand jour où M. Dorrit et sa famille doivent quitter la prison et dire un éternel adieu à ces cours dont leurs pieds ont usé les pavés. Midi était l'heure fixée pour le grand événement. À mesure que l'heure approchait, tous les détenus, tous les guichetiers accoururent, pas un n'était absent. Ces derniers fonctionnaires avaient revêtu leur habit des dimanches, et la plupart des prisonniers s'étaient faits aussi pimpants que leurs ressources le leur permettaient. On alla jusqu'à arborer 1 ou 2 drapeaux, et les enfants portaient à la boutonnière de petits bouts de ruban. Quant à M. Dorrit, il conserva, à ce moment critique, une dignité sérieuse mais affable. Son attention était surtout absorbée par son frère, dont le maintien lui causait un peu d'inquiétude. « Mon cher Frédéric, dit-il, si tu pouvais bien me donner le bras, nous traverserons ainsi les rangs de nos amis. Je crois qu'il est convenable que nous partions bras dessus, mon cher Frédéric. » Ah, répondit Frédéric, oui. Et si tu pouvais, mon cher Frédéric, si tu pouvais, sans trop te contraindre, répandre un peu de, pardonne ma franchise, Frédéric, un peu de distinction dans ta démarche. William, répliqua l'autre, ces choses-là te regardent. Quant à moi, je ne sais plus. J'ai oublié tout cela, j'ai tout oublié. Mais, mon bon, riposta William, c'est justement pour cela qu'il faut chercher à sortir de ta torpeur habituelle. Il faut tâcher de te rappeler ce que tu as oublié, mon cher Frédéric. Ta position. Hein ? Fit Frédéric. Ta position, mon cher Frédéric. Ma position ? Il se regarda d'abord lui-même, puis dirigea les yeux sur son frère, et poussant un profond soupir, s'écria « Ah oui, c'est juste, oui. Ta nouvelle position, mon cher Frédéric, n'est pas à dédaigner. La position de mon frère n'est nullement à dédaigner. Et je sais que tu as le cœur trop bien placé pour ne pas chercher à t'en rendre digne, mon cher Frédéric, au lieu de la déshonorer. » « William, répondit l'autre d'une voix affaiblie et avec un soupir, « je ferai tout ce que tu voudras, mon frère, mais ne me demande pas l'impossible. Sois seulement assez bon pour te rappeler combien mes moyens sont limités. Que désires-tu que je fasse aujourd'hui, frère? Dis-moi seulement ce que tu désires de moi. » « Rien, mon cher ami, rien. Il est inutile de tracasser un cœur comme le tien pour si peu de choses. Tracasse-le tant que tu voudras, William. Je ne demande pas mieux que de faire quelque chose pour t'obliger. »
William passa la main sur ses yeux et murmura avec une auguste satisfaction « Dieu te bénisse, mon pauvre cher Frédéric !» Puis il reprit plus haut « Eh bien, mon ami, si tu veux seulement essayer, tandis que nous sortons d'ici, d'avoir l'air de comprendre que ce jour est un grand jour pour toi, que tu y penses un peu. Et que me conseilles-tu d'en penser ?» interrompit le frère d'un ton de soumission. « Mon cher Frédéric, que veux-tu que je réponde à cela ? Je puis seulement te dire ce que je pense moi-même en quittant ces braves gens. »« C'est cela, » s'écria Frédéric, « cela m'aidera. » « Je me demande, mon cher Frédéric, avec un mélange d'émotions diverses où prédomine une douce pitié, je me demande ce qu'ils vont devenir sans moi. »«
Bien, » répondit le frère, « oui, oui, oui. Je me demanderai cela en nous éloignant. Que vont-ils devenir sans mon frère ? Pauvre prisonnier, que vont-ils devenir sans lui ?»
Sur le coup de midi, on annonça que la voiture de M. Dorit stationnait dans la première cour, et les deux frères descendirent bras dessus, bras dessous. Édouard Dorit, Esquire, naguère Tip et sa sœur Fanny suivirent, se donnant aussi le bras. M. Pleurniche et Maggie, auxquels on avait confié le soin de déménager les effets qui valaient la peine d'être emportés, fermaient le cortège, chargés de divers paquets qu'on devait emballer dans une carriole. Dans la cour se trouvaient les détenus et les guichetiers. On y voyait aussi M. Punks et M. Rugg qui venaient assister au dénouement de la pièce à laquelle ils avaient mis la main. On y voyait aussi le jeune John en train de rédiger une nouvelle épitaphe où il déclarait qu'il était mort le cœur brisé. On y voyait aussi le patriarcal Casby qui avait l'air si extrêmement bienveillant que, dans leur enthousiasme, un grand nombre de détenus lui donnaient de chaleureuses poignées de main et que leurs femmes et leurs enfants lui baisaient les mains, convaincus que c'était le vénérable patriarche qui avait tout fait. On voyait aussi le cœur obligé composé des gens de la localité. Le prisonnier qui formulait sans cesse une plainte ténébreuse concernant certains fonds empochés par le directeur. Ce monomane s'était levé à 5 heures du matin afin d'achever de mettre au net une histoire parfaitement inintelligible de cette escroquerie supposée, et il confia à M. Dorit cette importante pétition qui, disait-il, ne pouvait manquer d'abasourdir le gouvernement et de déterminer la chute du directeur. On y voyait aussi l'insolvable qui employait toute son énergie à faire des dettes, qui se donnait autant de peine pour se faire coffrer en prison que d'autres s'en donnaient pour en sortir et que les syndics acquittaient avec force compliment. Tandis que l'insolvable qui se tenait auprès de lui, un piteux petit négociant plein de courage et de bonnes intentions, qui s'était tué le corps et l'âme pour éviter de faire des dettes, avait peine à ne pas passer pour un banqueroutier frauduleux. On y voyait aussi le père d'une nombreuse famille, avec des charges considérables, dont la faillite avait étonné tout le monde. On y voyait aussi le riche dissipateur sans enfants ni charges d'aucune sorte, dont la faillite n'avait étonné personne. On y voyait des gens qui comptaient toujours partir le lendemain, et qui remettaient toujours leur départ. On y voyait des gens arrivés de la veille qui se montraient beaucoup plus exaspérés contre la fortune que les vieux piliers de prison. On y voyait quelques-uns qui, par pure bassesse, s'abaissaient et s'inclinaient devant le détenu enrichi et sa famille, parce que leurs yeux, habitués aux ténèbres de la prison et de la pauvreté, étaient incapables de supporter l'éclat d'une pareille fortune. Il y en avait beaucoup dont les shillings avaient été empochés par le doyen et avaient servi à lui acheter de quoi manger et boire, mais qui ne songeaient pas le moins du monde à s'en faire un titre pour traiter de père à compagnon avec leur ex-doyen. Au contraire, on eût plutôt dit que ces pauvres oiseaux en cage s'effarouchaient de voir l'heureux oiseau qui reprenait son essor et ne s'en sentaient que plus disposés à se réfugier du côté des barreaux, tout tremblant, tandis que M. William Dorit passait devant eux avec son cortège. La petite procession, les deux frères en tête, s'avança lentement vers la grille. M. Dorit, accablé par la grave question de savoir ce que ces pauvres diables allaient devenir sans lui, fut majestueux et triste, sans toutefois se laisser absorber dans sa tristesse. Il caressa les petits-enfants au passage, à l'instar de Sir Roger de Coverley, se rendant à l'église.
il appela par leur nom de baptême diverses personnes timides restées sur le second plan. Il fut affable pour tout le monde et sembla vouloir les consoler en marchant au milieu d'eux, entouré d'une auréole où on lisait en lettres d'or cette légende « Ne te laisse pas abattre, ô mon peuple, supporte cette rude épreuve. » Enfin, trois hurrahs bien francs vinrent annoncer que le doyen avait franchi le seuil et que la prison était orpheline. Les échos de la cour n'avaient pas encore fini de répéter ces chaleureuses acclamations que la famille s'était installée dans son équipage provisoire dont le domestique allait relever le marchepied. Alors seulement, Mademoiselle Fanny s'écria tout à coup « Bonté divine ! Mais où donc est Aimée ?» Le père avait pensé qu'elle était avec sa sœur. La sœur avait pensé qu'elle était quelque part. Tous avaient compté la voir se glisser tout doucement à sa place au moment opportun, ainsi que cela lui arrivait toujours. Ce départ était peut-être la seule action dont la famille se fût tirée jamais sans l'aide de la petite Dorite. On avait perdu environ une minute à se communiquer cette découverte lorsque Mademoiselle Fanny, qui, de son siège dans la voiture, pouvait plonger le regard dans l'étroit et long couloir conduisant à la loge, rougit d'indignation. « Vraiment, papa, s'écria-t-elle, c'est honteux, c'est déshonorant. » « Qu'est-ce qui est déshonorant, Fanny ?»« Je le répète, continua l'ex-danseuse, c'est vraiment infâme. Il y a presque de quoi, même un jour comme celui-ci, me faire désirer d'être morte. » Ne voilà-t-il pas cette petite Aimée dans sa vieille robe fripée et fanée qu'elle a mis tant d'obstination à garder? Papa, 100 fois je l'ai priée et suppliée de la changer, et 100 fois elle a refusé, promettant de la changer aujourd'hui, parce qu'elle désirait la porter tant qu'elle resterait ici avec vous, papa. Ce qui est une stupidité romanesque du dernier trivial. Voilà cette petite Aimée qui nous déshonore, au dernier moment, en se faisant porter jusqu'ici vêtue de sa vieille robe, et par ce monsieur Clennam encore. Il n'y avait pas moyen de nier le crime. Au moment où Fanny formulait l'acte d'accusation, monsieur Clennam parut à la portière de la voiture, tenant dans ses bras la petite Dorite qui avait perdu connaissance. « Elle a été oubliée, » dit Arthur d'un ton de compassion qui n'excluait pas le reproche. J'ai couru à sa chambre, que M. Chivery m'a indiquée, et j'ai trouvé la porte ouverte. Elle s'était évanouie, la pauvre enfant. Apparemment, elle aura perdu connaissance en allant changer de robe. Peut-être a-t-elle été effrayée par les acclamations de ces bonnes gens, peut-être était-ce auparavant. Réchauffez cette pauvre petite main, Mademoiselle Dorite, elle est bien froide. Ne la laissez pas tomber comme cela. Merci, monsieur, répondit Mademoiselle Fanny, fondant en larmes. « Je crois que je sais ce que j'ai à faire, si vous voulez bien me le permettre. »« Ma chère, ouvre les yeux, je t'en prie. »« Aimée, aimée, si tu savais comme je suis vexée et honteuse. »« Reviens à toi, ma chérie. »« Mais pourquoi ne partons-nous pas ? » ?»« Papa, je vous en supplie, dites-leur donc de partir. » Le domestique passant entre Arthur et la portière, avec un « Permettez, monsieur, ingre doux », releva le marchepied et les voilà partis.